fonctionnaire, historien, maître de conférences à Sciences Po et l'auteur de 30 livres sur l'histoire politique et le renseignement. C'est Amélie Nothomb qui signe la préface de votre livre et elle explique que les espionnes la fascinent parce qu'elles boivent le champagne comme nul n'en est capable. Et vous, Bruno Fulini, qu'est-ce qui vous fascine chez elle? Pourquoi leur avoir consacré un ouvrage?
Alors, il y a beaucoup d'ouvrages sur les espionnes, mais qui sont des livres de texte et qui portent toujours un petit peu sur les mêmes personnes. J'ai voulu élargir un petit peu le champ, d'abord au plan historique, en allant de la plus haute antiquité à nos jours, et puis en m'intéressant à la fois aux vedettes et aux ignorés, aux oubliés. Il y a certaines espionnes pour lesquelles il n'existe qu'une seule photo répertoriée, qu'une seule photo connue. Plus fondamentalement, on a assisté ces dernières années, quand je dis ces dernières années, c'est au cours du siècle qui vient de s'écouler, à une incroyable féminisation du monde du renseignement. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le renseignement, c'était une affaire d'homme, et de temps en temps, on faisait appel à une femme, éventuellement à une courtisane, ou alors à une domestique, pour accéder à un secret. Et à partir de 1914, eh bien, on a vu des femmes commencer à jouer un rôle à l'intérieur même des services secrets, à avoir des responsabilités, à jouer des rôles d'encadrement, de formation, d'officier traitant, également des responsabilités importantes dans tout ce qui est chiffres, déchiffrement, cryptographie, etc. Et ça, c'est un phénomène qui m'a intéressé.
Il y a des livres qui sont parus sur les espionnes dès le début du XXe siècle, enfin sur les espions plus précisément, mais on citait quelques femmes. Vous citez René Boucard ou le commandant Massard, et eux disent des espionnes au féminin, donc qu'elles étaient gaffeuses, souvent plus intuitives que les hommes, mais beaucoup trop sensibles. Et vous, après avoir examiné tous ces profils, qu'est-ce que vous en pensez ?
Exactement le contraire, c'est-à-dire que cette espèce de condescendance qu'utilisent ces auteurs, bon, j'ai cité ces auteurs par un peu comme des perles, si vous voulez, mais précisément c'est le contraire. On s'est beaucoup demandé si les femmes avaient des qualités particulières, une manière particulière de faire du renseignement, et en fait la meilleure réponse nous est apportée par l'une d'entre elles, Stella Remington. C'est la première femme à avoir dirigé le MI5, excusez du peu, hein, il s'agit du renseignement intérieur britannique. Et elle disait que toutes ces considérations, les femmes plus intuitives, plus bavardes, etc., tout ça, ce n'était que des bêtises, et que les services avaient besoin de gens talentueux et qu'elle les trouvait aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où une société se féminise, y compris dans les armées, y compris dans le monde professionnel, eh bien les services de renseignement, dont le but est d'infiltrer ces sociétés, ont besoin de se féminiser aussi. Et donc, un peu contraints et forcés, ils ont fait place aux femmes, et la quasi-totalité des femmes que j'ai recensées dans cet ouvrage ont fait preuve, non seulement, vous l'avez dit, d'un grand courage, j'ajouterais d'un grand sang-froid et de beaucoup d'intelligence. Souvent, on les réduit, si vous voulez, au recueil de renseignements sur l'oreiller. Il y a le côté un peu cocotte à aigrette et effectivement, coupe de champagne. Mais ça n'empêche pas d'être futé. Et puis, il y a bien plein d'autres missions qui ont été accomplies avec succès par ces femmes.
Vous commencez votre encyclopédie, vous le disiez, avec des personnages bibliques. Il y a Judith, Dalila, une qu'on connaît moins aussi, Rahab, la prostituée de Jéricho. Et puis, il y a aussi, évidemment, la plus connue des espionnes, sans doute, Mata Hari, fille d'un chapelier néerlandais, mariée jeune à un officier colonial. Elle ramène de Java un style de danse et des costumes de scène. Et de retour aux Pays-Bas, elle va espionner pour le compte des Allemands pendant la Première Guerre mondiale, puis pour les Français. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue un vrai personnage de la culture populaire, Mata Hari ?
Mata Hari, c'est vraiment l'exception, puisqu'elle elle se met au renseignement lorsqu'elle est déjà une vedette mondiale. C'est à partir de 1905, avec ses danses et en fait l'invention du striptease, hein, tout simplement avec un prétexte de danse sacrée, mais il ne s'agit pas tellement d'autre chose. À partir de 1905, elle devient une vedette mondialement connue. Et 9 ans plus tard, quand se déclenche la Grande Guerre, les Pays-Bas étant neutres, elle intéresse les Allemands, parce qu'avec son passeport, elle peut circuler de l'autre côté. Par ailleurs, elle a besoin d'argent, et puis en tant que danseuse, elle s'est démodée, et donc c'est une danseuse mondialement connue, mais sur le retour, qui va se mettre à l'espionnage. Et en réalité, malgré tout ce que les gens imaginent, c'est une très mauvaise espionne. Elle va se faire prendre très vite, elle va, comme vous le savez, finir fusillée, elle va être d'ailleurs grillée par par ses propres employeurs. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, elle travaillait pour les Allemands. Elle a ensuite fait des offres de service aux Français, devenant ainsi agent double. Les Français ne sont pas dupes, parce que ça fait déjà un certain temps qu'ils la suivent et qu'ils voient bien qu'à travers Paris, elle repère les officiers alliés, belges d'ailleurs, anglais et français, en permission pour essayer de leur soutirer des informations. Donc, ils ne sont pas dupes du tout. Mais bon, on la prend un petit peu à l'essai. Et puis assez vite, elle va tomber, et les Allemands eux-mêmes vont envoyer des messages dans un code dont ils savent parfaitement qu'il est maîtrisé par les Français, ce qui va amener à ce qu'on la fusille. Et je pense qu'en fait, Matahari, sa chance, c'est finalement, ça paraît cruel de le dire comme ça, d'avoir été fusillée. Et au lieu de terminer comme une danseuse démodée, oubliée, elle va devenir l'héroïne d'un grand roman d'espionnage, d'une affaire tragique. C'est une femme qui a été littéralement sacrifiée par le service qui l'avait employée pour des raisons politiques. C'est que du coup, la mission d'espionnage de Matahari étant connue, les Français l'ont fusillée, ce qui a fait complètement oublier toutes ces femmes qui ont été fusillées par les Allemands au début de la guerre, en particulier sur le sol belge.
Et votre ouvrage, Bruno Fulinier, est aussi très richement documenté, je le disais, notamment sur Matahari. C'est votre collection personnelle, hein, et vous avez déniché aussi une photo du tournage d'un film où elle se fait fusiller. On voit ça, parce qu'il y a des photos qui ont circulé, mais c'était des faux. Il y a aussi des espionnes belges. Il y a Gabrielle Petit, il y a Marthe McKenna, il y a Edith Cavell, qui était anglaise, mais qui appartient un petit peu à la Belgique, entre guillemets. Oui. Est-ce que vous avez une espionne préférée ?
Bon, j'ai une certaine tendresse pour Gabrielle Petit, qui a une classe extraordinaire. C'est une histoire très triste, hein. À la base, elle-même, elle perd sa mère à 5 ans. Elle est littéralement abandonnée par son père dans une institution religieuse. Elle a quand même une volonté incroyable. Elle s'instruit. Elle est sur le point de se marier quand éclate la guerre. Elle réussit, avec son mari qui est soldat, à passer du côté allié, donc dans une petite portion de la Belgique qui n'est pas occupée. Et là, elle pourrait s'y réfugier. Mais non, elle est prise en main par les Anglais, qui la forment à la clandestinité et qui sont très intéressés de voir cette petite femme. C'est une toute petite femme menue, mais très volontaire, très intelligente, et qui se disent qu'elle pourrait repartir dans la Belgique occupée et là y animer un réseau. Et donc Gabrielle Petit devient Mademoiselle Le Grand. Vous voyez, Petit, Le Grand, c'est son pseudo. Et là, elle va à plusieurs reprises échapper au contre-espionnage allemand. Une première fois, c'est une poursuite. Elle réussit à détaler assez vite. Une deuxième fois, elle est arrêtée. Elle est claquemurée dans une auberge. Elle trouve le moyen de s'évader. Et puis la troisième fois, malheureusement, on est au début de l'année 1916. Elle est arrêtée, elle est enfermée à la commandant Tour. Elle va être torturée et à la prison Saint-Gilles, et elle ne parlera jamais. Elle ne parlera jamais. À la fin, elle est exécutée. Et ses derniers mots devant le peloton d'exécution, c'est « Vous allez voir comment une femme belge sait mourir ». Bon, entre-temps, elle a diffusé de la presse clandestine, elle a exfiltré des prisonniers de guerre, elle a glané plein d'informations sur le matériel, sur les mouvements de troupes. Elle meurt à 23 ans en ayant vécu plusieurs vies. C'est vraiment extraordinaire. C'est à la fois une histoire très triste et une histoire d'une intensité éblouissante.
Vous l'appelez d'ailleurs la martyre de Skarbek. Il y a énormément d'espionnes, on l'a dit. Leur influence, elle peut être parfois souterraine, évidemment, mais aussi très très importante. Jusqu'où ça pouvait aller l'influence ou l'action d'une espionne ?
Il y a des espionnes qui ont changé le cours de l'histoire. Si je prends la fameuse Miss Tinguette, tout le monde la connaît comme meneuse de revue, femme de music hall. Bon, mais toujours pendant la Première Guerre mondiale, Miss Tinguette signale au service secret français qu'avant le déclenchement de la guerre, elle était courtisée par un prince prussien. Et que s'ils sont d'accord, elle pourrait le rejoindre en Suisse et essayer de lui soutirer des informations, parce qu'évidemment, il est très proche du pouvoir dans l'Empire allemand. Et donc tout est fait pour cela. Elle part en Suisse et sur l'oreiller, elle va recueillir une information capitale. Tout le monde s'attend à une offensive allemande dans la Somme, hein, en Picardie, dans la partie nord de la France. Et elle apprend incidemment par ce prince qu'en fait l'offensive aura lieu en Champagne. Et elle parvient à prévenir l'état-major français. Et du coup, quand les Allemands attaquent en Champagne, eh bien, il y a en face tout ce qu'il faut pour contrer l'offensive. Là, c'est vraiment, vous voyez, c'est un mouvement militaire, c'est qui ne s'explique, qui ne se comprend que grâce à cette petite bonne femme très belle. Hein, elle était connue pour ses belles gambettes, Miss Tinguette. Mais au-delà des belles gambettes, les belles gambettes nous ont amené quand même à un retournement de situation militaire tout à fait capital. Et donc, à certains moments, comme ça, le sort d'une guerre ou la signature d'un traité, eh bien, peuvent être liés à l'action d'une femme qui est placée au bon endroit et qui est là pour donner des informations un petit peu en primeur à son service.
Les femmes que vous présentez, Bruno Fulini, ont des profils très très différents. Hein. Oui. J'en viens à la période contemporaine. Je donne juste quelques infos sur la dernière espionne qui est présente dans votre livre, parce qu'elle, elle a officié dans les milieux d'affaires. C'est Anna Chapman. Elle est russe, mais elle a obtenu la nationalité britannique par mariage. Et elle est parvenue à intégrer les milieux d'affaires américains. Elle a séduit plusieurs personnalités du monde économique et financier, mais elle va finalement être repérée par le FBI en 2009, renvoyée en Russie. Aujourd'hui, elle est devenue mannequin pour la propagande russe. Donc, pour dire qu'on trouve vraiment des destins très, très particuliers et qu'on va